Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Je ne rigole plus maintenant, on n'est pas là pour jouer, ils ne savent pas s'arrêter. Quel parent n'a pas lancé un jour ce genre d'exclamation? Et si nos enfants étaient là aussi pour nous réapprendre à vivre, cela donnerait de leur part les apostrophes suivantes. Rigole encore un peu, on est là pour jouer, et surtout, papa, maman, ne t'arrête jamais. Un peu fort de café, c'est que le jeu pour les enfants, c'est leur métier, disent certains psychologues. Et si le jeu était une réalité essentielle à la vie, à redécouvrir. Vite coupe, vite famille, c'est le thème de l'émission Vivante Église en ce jeudi matin avec nos deux chroniqueurs d'une certaine manière, bien content de vous retrouver, Marie Binet. Je le dis, maintenant on vous appelle Marie Binet, vous êtes conseillère conjugale et familiale et auteur de multiples ouvrages dont Tendresse, Amour et Volupté, paru aux éditions Quasar. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Bernard Coulot, psychologue, thérapeute familial, expert auprès de la Cour d'appel de Toulouse. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Alors ce matin, donc vite coupe, vite famille, on va parler des jeux. Avant ça, on l'a fait plusieurs fois pendant les temps de confinement. Ma première question sera toute simple, c'est est-ce que ça va mieux? Alors vous me direz, vous en général, vous avez plutôt ceux qui vont pas bien. Mais est-ce que vous avez l'impression que les couples reprennent un peu d'air, puisque l'idée c'est d'avoir un peu un retour terrain quand vous venez en émission comme ça. Est-ce que la fin de la pandémie, du moins on l'espère, les déconfinements et autres font que ça respire? Marie Binet, pardon.
Alors, en fait,
il va falloir que je m'y fasse, hein, quand
oui,
même. Hein. Vous n'allez pas me
gronder.
Hein.
Alors, en fait, il y a une période cet hiver qui a été très, très difficile pour les couples et les familles. Et c'est vrai que la perspective de l'été, du déconfinement, aide à reprendre un peu d'oxygène. En tout cas, je pense qu'il va y avoir une période un petit peu de réparation par rapport à tout ce temps d'une année où les couples et les familles ont vécu un peu les uns sur les autres.
Parce qu'on retourne au bureau aussi quand même. Là,
le fait de retourner au bureau, d'avoir moins de télétravail. Donc oui, il y a besoin d'oxygène, il y a besoin de mettre un peu de distance entre les personnes, de se retrouver aussi un peu seul. Ça, c'est un besoin. Et en même temps, pour reprendre le thème d'aujourd'hui, moi ce que j'ai pu voir en tout cas, c'est que cette année a été profitable pour retrouver justement des temps de jeu en couple et en famille. Et je pense que ça a fait du bien aussi d'avoir ces temps un peu intimes qui avaient tendance à passer un peu à l'as dans le rythme un peu fou de chacun. Donc il y a, je pense là, avec cette sortie de confinement, de nouveaux équilibres à trouver et ça va prendre un peu de temps.
Bernard Coulot, le retour terrain de votre côté.
Oui, je crois.
Quel est-il ?
Je crois effectivement que pour les couples et pour les familles, cette période Covid-19 avec les confinements successifs, vivre les uns sur les autres, comme disait Marie tout à l'heure, et le télescopage entre vie privée et vie professionnelle, se retrouver dans les mêmes espaces avec le télétravail. Pareil pour les écoliers, les collégiens, les lycéens, finalement, que le lycée soit à la maison, que le collège soit à la maison, il y a eu vraiment des télescopages.
La difficulté de voir des copains aussi.
Oui, c'est ça. Et là, effectivement, le déconfinement, pouvoir sortir à nouveau, je crois effectivement, comme le disait Marie, que ça va nous permettre de réparer un petit peu, restaurer des espaces disjoints entre la vie familiale réellement en famille et le travail, peut-être davantage au travail, et puis pour les écoliers, pour les collégiens, pour les lycéens, retrouver le collège, le lycée, les copains, les copines ailleurs que en étant confinés à la maison, je crois effectivement que c'est plutôt heureux.
Alors, avant qu'on parle des jeux, je voulais vous faire parler un petit peu du temps passé en famille. J'ai sorti une ou deux études. Une première que j'ai trouvée, c'est un baromètre annuel approuvé par les familles. Approuvé par les familles, pardon, j'en trouvais plus le commanditaire. Qui laisse entendre qu'il y a plusieurs types de familles. Voilà, alors là, ils en sortent trois. C'est les familles cocon, celles qui passent du temps aux familles, qui affectionnent les loisirs, voilà, ensemble. Il y a les familles connectées, les familles conso, chacune donc a un peu la manière privilégiée d'avoir des activités ensemble. Moi ça m'a surpris, les familles cocon, donc cette catégorie qui affectionne particulièrement les loisirs, vacances, sorties culturelles, ludiques, etc., représente 70% des Français. Les Français donc seraient preneurs de temps en famille. À propos du dimanche, les Français répondent majoritairement, 65%. Le dimanche, c'est pour passer du temps en famille, 56% se promener, 41% regarder la télévision. Quand même, Mario de Binec, que font les couples que vous accompagnez ? Ont-ils envie de passer du temps en famille ?
Oui. Et c'est un grand besoin de passer du temps en famille et en même temps avec la plainte on n'y arrive pas ou alors les enfants prennent trop de place ou alors on n'a pas assez de temps pour nous. Donc c'est pour ça que je parlais d'un équilibre. C'est comment en même temps être avec les enfants et passer du temps, se promener, faire un jeu de société, voir même regarder un film ensemble qui peut être aussi un bon moment de détente parce qu'après on en parle. Mais en tout cas c'est quand de mettre ce temps. Et c'est vrai que beaucoup privilégient le dimanche.
Voilà, certains se réparent la semaine le dimanche, justement.
Exactement, parce qu'il y en a aussi qui travaillent le samedi, tout simplement. Il y a un des parents qui travaille le samedi. Donc, avoir tout le monde réuni autour de la même table ou dans un même espace-temps, ce sera le dimanche. Après, c'est, vous l'avez dit avec ces trois exemples de famille, c'est une question d'abord d'habitude, je dirais de tradition familiale, d'éducation. Et c'est vrai que chez les couples chrétiens, c'est beaucoup plus facile de privilégier le dimanche, parce que déjà, il y a le dimanche matin qui est réservé au temps de la messe. Et ensuite, il y a un repas familial qui est prévu. Et souvent, le repos étant le dimanche, eh bien, il y a un temps privilégié, même disant aux enfants, le dimanche, vous ne faites pas votre travail scolaire. C'est un dimanche fait pour le repos, la détente, se retrouver ensemble.
Bernard Coulot, je cite juste une autre étude pour donner des éléments au débat. Alors j'ai trouvé une étude qui était parue, donc qui a été publiée par The Economist, qui était une étude dans 11 pays occidentaux, publiée en 2018, qui laissait entendre que depuis l'après-guerre, contrairement aux idées reçues, le temps passé en famille a augmenté. Voilà, on serait passé donc de 54 minutes à 104 minutes. Alors sauf pour la France, où là ça aurait diminué. Ça serait peut-être à vérifier. En tout cas, ce qui est une réalité, ce que rappelle l'étude, c'est que en France, les modes de garde en fait, sont quand même maintenant bien mis en place. Beaucoup de femmes travaillent. Ça fait donc parfois des vies de famille, justement, où on a du mal à trouver du temps ensemble, ce qui expliquerait peut-être cette exception française, dit cette étude.
Oui, c'est vrai qu'on est un peu tout le temps à l'arrache et à la course dans nos vies d'aujourd'hui. Comme vous le disiez, Emmanuel, les deux parents travaillent la plupart du temps aujourd'hui. Et c'est vrai que...
Et puis il y a les familles monoparentales aussi. Hein,
oui, c'est... oui, oui. Et du coup, le temps que l'on peut consacrer réellement à du bon temps en famille, il est compté dans les jours de la semaine. C'est pour cela que tout à l'heure, quand je vous entendais parler du dimanche, effectivement, le temps, le dimanche, on l'a. Et il faudrait le prendre, en tout cas, appuyer sur pause et tenter d'oublier les préoccupations professionnelles, les préoccupations scolaires pour les jeunes et effectivement se consacrer à du bon temps en famille.
Alors le jeu, pourquoi est-ce que vous vouliez insister sur le jeu ? À la fin de l'émission, on parlera de recettes du bonheur. En l'occurrence, on fera écho à certaines du pape François, 10 conseils du pape François pour être heureux. Dedans, il y a jouer avec les enfants, justement. Pourquoi, Mario de Binet, ça vous a paru important de finir l'année sur ce thème ?
Eh bien, parce que nous sommes d'éternels enfants et nous avons commencé à découvrir le monde à travers le jeu. Dès qu'on est bébé, les parents font jouer le bébé, passent par le jeu pour l'éveiller au monde, pour lui faire découvrir à travers ses 5 sens qui il est, pour se connecter à lui. Eh bien, en fait, adulte, on est toujours un petit peu dans cette légèreté et je pense qu'on est dans un monde où la légèreté, on en a bien besoin. Le jeu amène à la simplicité, à la légèreté, au fait d'apprendre à vivre ensemble. C'est aussi un très bon moyen d'apprendre la coopération. D'ailleurs, de plus en plus de jeux de société sont coopératifs, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Il y a aussi des jeux qui permettent intellectuellement de se développer, soit dans la connaissance, le fait de trouver des stratégies. Il y a une forme de se mesurer à l'autre, d'un esprit quelquefois de compétition, tout en apprenant à être fair play. Donc je pense qu'il y a le jeu permet vraiment d'apprendre à être avec l'autre et en plus de se découvrir aussi soi dans sa manière d'être. Alors on parle des jeux de société, mais le sport est une façon de jouer. En tout cas, il y a plusieurs façons de découvrir, je dirais aussi comment sourire. Comment partager de la joie. Et ça fait du bien. Enfin, voilà, c'est tout le côté relationnel, plaisir, qui enrichit non seulement la relation avec les enfants, et qui va aussi enrichir la vie en fratrie et aussi la vie en couple.
Bernard Coulot, qu'est-ce que vous diriez, pour faire écho aussi peut-être à mon introduction, sans vouloir tirer la couverture à moi, est-ce que les adultes ont fini par, comment dire, par avoir un regard un peu biaisé sur le jeu ? Le jeu, c'est une affaire d'enfant.
Oui, Marie disait que nous sommes tous enfants. J'aimerais la croire à 100%.
On l'a tous été, en tout cas,
ouais,
ça c'est sûr.
C'est-à-dire que je crois effectivement que nous avons sûrement une part d'enfance gardée en nous. Mais parfois, nous sommes trop sérieux parce qu'on travaille beaucoup, trop sérieux parce qu'il y a les préoccupations familiales, les préoccupations sociales, financières, et on est très sérieux. Et je crois que l'intérêt du jeu, justement, c'est d'appuyer sur pause et d'être dans un temps suspendu. Et ce qui est suspendu, ce qu'il faudrait qu'il soit suspendu, ce sont nos préoccupations, que nous arrivions dans le jeu à débrancher vraiment nos soucis, nos préoccupations pour être à 100% dans la rencontre avec l'autre, avec lequel ou avec les autres avec lesquels je joue.
Que dit le psychologue de ça ? C'est-à-dire, si vous deviez plus réagir comme, encore plus comme psychologue. Par exemple, on parle parfois en psychothérapie de la redécouverte de l'enfant intérieur.
Oui, je crois effectivement il y a cette idée de redécouvrir l'enfant intérieur, l'enfant que j'ai en moi, et pour cela le jeu c'est fabuleux parce que on revient sur un mode ludique, on oublie un peu l'adulte, le trop adulte, le trop sérieux que j'ai en moi pour s'abandonner finalement à la rencontre ludique avec l'autre, que ce soit en couple, en famille, avec les enfants, grands-parents, etc.
Mariotte Binet, un bon adulte, c'est un adulte et un enfant ?
En tout cas, c'est un adulte qui est capable d'être dans l'autodérision parfois, qui est capable d'avoir de l'humour. Et je prends un exemple très simple, jouer avec ses enfants à faire des grimaces. Voilà, au petit déjeuner par exemple, pour bien commencer la journée. Comment l'adulte que je suis peut à un moment donné se déconnecter de je ne dois être que dans l'éducatif, je ne dois être que dans je montre l'exemple. Mais on peut montrer l'exemple aussi en montrant à son enfant, ouais, on peut être cool un peu de temps en temps, et ça ne veut pas dire qu'on est moins bien, au contraire. Et en fait, je pense qu'on a oublié l'autodérision. On oublie aussi cette spontanéité. L'enfant est spontané, il ne se pose pas 10 000 questions. Et en fait, nous adultes, on se pose trop de questions. Qu'est-ce que ça va faire si je dis ça ? Et si je montre ça, est-ce que ça ne va pas tout d'un coup partir en live, etc. Non, voilà, je peux m'autoriser. Et donc, il faut autoriser un peu l'enfant en soi. Oui, oui, tu as le droit d'être spontané, tu as le droit de rire, tu as le droit de trouver ça drôle, tu as le droit de partir un petit peu en folie. Voilà, alors bien sûr, on le limite, mais en tout cas, voilà, s'autoriser à être cet enfant spontané.
Vous leviez la main ? Non, vous grattiez la tête. Ah là, vous m'avez surpris, Bernard Coulot, c'est la première fois qu'on me le fait. Hein. Allez, on va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour parler un peu plus des jeux côté enfant, de la vertu du jeu, la manière dont les enfants envisagent le jeu, de l'importance du jeu pour les enfants, pas seulement des jeux en famille, et puis des jeux en couple. Thank you.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vite coupe, vite famille, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On reprend nos bonnes habitudes en sortant de cette période de confinement avec nos deux chroniqueurs, en tout cas pour cette année, Marie Binet, conseillère conjugale et familiale, et Bernard Coulot, psychologue, thérapeute familial et expert auprès de la Cour d'appel de Toulouse. Donc dans cette deuxième partie, on va parler davantage du jeu. Si on commence par essayer d'envisager le jeu côté enfant, c'est-à-dire de l'importance du jeu pour les enfants d'une certaine manière, qu'est-ce que vous pensez de cette expression que j'ai trouvée de psychologue Bernard Coulot, le jeu pour les enfants c'est leur métier? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors, à la fois ça dit toute l'importance du jeu pour l'enfant, mais en même temps, quand on dit métier, la plupart du temps on fait un CAP, un BTS, une formation pour apprendre le métier. Le jeu, c'est l'enfant. L'enfant, il est jeu. Il est jeu, J-E-U, mais je crois aussi qu'il se construit, le jeu, J-E, il se construit aussi dans tous ses jeux. Mais il est jeu presque tout le temps. Il faudrait même qu'à l'école, il apprenne de manière presque amusée ou de manière ludique dans l'école idéale, très certainement, même si c'est sûrement très compliqué. Mais je crois effectivement que le jeu est absolument fondamental pour l'enfant. On y reviendra tout à l'heure.
Mario de Binet, de l'importance du jeu pour les enfants, qu'est-ce que vous diriez? C'est, en fait, on grandit et on se construit par le jeu. Les enfants, dans le fond, ils ne peuvent pas faire autrement.
Alors, je suis d'accord avec ce que dit Bernard, c'est qu'en fait, le JE se construit dans le JEU et notamment dans la relation à l'autre. L'enfant vient nous chercher toujours sur un mode jeu. Il a envie de jouer, il a envie de... D'ailleurs, les chatouilles, quelque chose qui est aussi simple que ça, jouer à se chatouiller, c'est une manière de se connecter à l'enfant qui fonctionne systématiquement. Donc l'enfant a besoin de voir en fait quoi? Il a besoin de voir notre sourire, il a besoin de rire, il a besoin de sentir qu'on l'aime, qu'il est heureux. Et tout ça, ça passe par le jeu en fait. C'est tout le bien-être qui lui permet de construire son identité, mais de trouver sa place aussi dans la relation et dans le monde. Et c'est une manière de découvrir. Aujourd'hui, on fait beaucoup de parcours ludiques pour découvrir la nature, par exemple. Et ça fonctionne extrêmement bien. Dans les musées, on a des jeux pour découvrir les différentes salles des musées. L'enfant a soif de ces découvertes. Il est curieux. Il a une curiosité naturelle. Donc le jeu, tout de suite, il y va. C'est spontané pour lui.
Moi, justement, en préparant l'émission, j'ai compris des choses sur le cache-cache. Par exemple, si vous pouvez l'expliquer, peut-être l'angoisse de l'enfant, c'est donc d'être séparé de son parent. Et le cache-cache, c'est une manière, en fait, de s'approprier par le jeu ou d'arriver à dépasser cette peur, c'est ça? Est-ce que vous pouvez l'expliquer?
Le cache-cache, c'est un jeu essentiel pour moi et qui est vraiment très attaché pour l'enfant à cette première période de sa vie. L'enfant, quand il est nourrisson, on croit souvent que c'est une période un peu idéale, paradisiaque, etc. Je crois qu'on se trompe complètement. Le temps du nourrisson, c'est aussi le temps, certes, du bonheur à être coucouné et choyé par sa mère, son père, mais c'est aussi le temps de l'angoisse, notamment l'angoisse de séparation et l'angoisse d'abandon. C'est-à-dire que le nourrisson n'a pas acquis ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Quand maman ou papa me laissent dans une chambre, en me faisant un bisou de loin, le nourrisson, lui, n'est pas convaincu que maman ou papa va revenir. Il n'a pas acquis la permanence de l'objet.
Quand vous dites le nourrisson, ça dure quand même...
Jusqu'à 8 mois, 9 mois.
D'accord.
La permanence de l'objet, être sûr que quand maman ou papa me laisse dans la chambre, il ou elle va revenir, cette conviction intime, il ne l'acquiert que vers 8, 9 mois. Et du coup, quand il joue à cache-cache, les premiers jeux de cache-cache, quand...
C'est pour ça que ça les fait tant rire aussi.
Ah oui.
C'est qu'en fait, derrière, ça vient soigner une angoisse très
absolument
profonde.
Ça vient soigner. C'est effectivement, le jeu de cache-cache est un magnifique remède pour dépasser cette angoisse-là. C'est-à-dire que quand l'enfant qui marche, mettons, qui a un an et demi ou deux ans, et les premiers jeux de cache-cache avec maman ou papa qui va se cacher derrière l'armoire, et le petit garçon ou la petite fille qui le retrouve, c'est une joie immense la plupart du temps, parce que là, tout d'un coup, il met en jeu, cette angoisse qu'il a connue auparavant et qu'il a pétri réellement d'angoisse. Il arrive à dépasser ça par ce jeu, ne serait-ce que le cache-cache. Ouais.
Alors, est-ce que vous pouvez rentrer un tout petit peu plus dans le détail? Est-ce qu'il y a à chaque âge ces jeux aussi? C'est la question que je me suis posée en préparant cette émission, c'est que je me dis parfois, nous les parents, bon ben, qu'ils aient... alors, on s'adapte, hein, évidemment, mais peut-être qu'on n'a pas conscience de ce qu'il faut faire, enfin, ce qu'il faudrait faire pour eux. Qu'ils aient un an, trois ans, six ans, bon, on joue avec eux. Mais j'ai trouvé là, un article dans lequel il disait les plus petits, ce qui est important, c'est les jeux d'exercice. Voilà, c'est dès deux mois pour toute la partie psychomotrice, motricité, pardon, cognitif, affectif, etc. Après, ça serait plus des jeux symboliques. Puis après, il y a des jeux de règles qui pourraient se mettre en place. Comment vous, je ne sais pas qui veut prendre la parole, mais quelles sont un peu les grandes étapes, Mariotte Binet?
Oui, il y a en effet des âges, même je dirais encore...
À chaque âge, ces jeux, en fait.
À chaque âge, ces jeux, et même là, vous parliez de la petite enfance, mais même à l'adolescence. À l'adolescence, il y a besoin plus de se confronter à l'autre, donc d'être plus dans la compétition. C'est pour ça que les jeux vidéo en ligne marchent très bien, d'ailleurs, mais aussi dans la coopération, et puis aussi dans la stratégie. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de développer vraiment intellectuellement la manière de rentrer en relation avec la règle du jeu et puis l'intégration des règles. Le jeu a cette qualité aussi de développer la compréhension d'une règle. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, je prends un jeu qui est 1, 2, 3 soleil. Très simple, ce jeu. Eh bien, quand on se retourne après avoir dit 1, 2, 3 soleil, on ne bouge plus. Bon, ben, cette règle du jeu, elle sert à quoi ? Et donc si jamais tu ne la respectes pas, tu es éliminé. Donc ça veut dire que tu n'arriveras pas en premier à l'arbre sur lequel je suis en train de faire moins de 3 soleils. Et donc du coup, tu as perdu. Mais ce n'est pas que tu as perdu pour perdre, c'est que finalement, il y a une question de rapidité, il y a une question de stabilité dans la manière de s'arrêter. Et donc on fait travailler la psychomotricité, on fait travailler le rapport à l'espace.
Si tu as envie de jouer avec les autres et de t'intégrer, il faut aussi respecter la règle.
Exactement.
Après, on ne peut pas jouer 1, 2, 3 soleil avec un enfant de 3 ans. Alors ça va de soi quelque part, mais parfois on a tendance à peut-être à manquer d'attention aux différents âges de la vie, à ne pas se rendre compte qu'à chaque âge, c'est jeu, justement.
Et du coup, c'est là aussi, ça apprend la valeur de la règle ou du jeu. C'est par exemple, si on a 4 enfants qui vont de 3 ans à 12 ans, comment l'enfant de 12 ans fait attention à celui de 3 ? Ça crée aussi une attention. Et de se dire, bah, comment celui de 12 va rappeler gentiment les règles du jeu à celui de 3 ? Il y a tout un ensemble de comportements qui vont se mettre en place autour du jeu. Et cette notion de règle, qui n'est absolument pas enfermante, mais il y a un jeu qui est extraordinaire pour les règles, c'est le jeu de loi. Le jeu de loi est bourré de règles. Si tu tombes sur cette case, tu retournes à la case départ. Si tu es là, tu es en prison, tu es obligé d'attendre qu'un autre te délivre. Ouais, mais c'est pas juste, les autres continuent de jouer, moi je joue pas. Donc les règles apprennent à être dans jeu. Ça me contient, et en même temps, il y a certaines règles qui vont donner tout d'un coup une grande liberté. Voilà, je tombe au Monopoly sur la case départ systématiquement, je gagne de l'argent en plus, c'est génial. Enfin, donc il y a une alternance de contraintes et de liberté à travers les règles du jeu, bah, que finalement on retrouve dans la vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se confronter à ça avec l'adulte qui va réexpliquer avec le plus de patience possible, donc ça demande aussi à l'adulte de prendre sur lui, et entre enfants, avoir une forme de tolérance, de patience, pour aussi... attendre, suivant l'âge, la compréhension des uns ou des autres.
Bernard Coulot ou Marie-Aude, si vous deviez rappeler un peu les raisons pour lesquelles le jeu est important, moi j'avais vu donc développement moteur et sensoriel, alors ça on peut comprendre pour les plus petits. Après, c'est le développement du langage aussi, en fait le langage passe par le jeu, si j'ai bien compris. Et puis développement intellectuel et social, ça Marie-Aude Binet vient de l'illustrer.
Oui, le jeu, effectivement.
Le langage, pourquoi le langage, en fait, ça paraît pas évident de prime abord.
Mais d'une part parce que, comme le disait Marie tout à l'heure, il faut dire et se dire les règles, il faut les comprendre, les intégrer, il faut aussi les respecter, se soumettre à la règle, respecter le tour de chacun, etc. Et tout cela, effectivement, c'est très apprenant, finalement, pour la vie en société, au-delà du jeu.
Et puis, il faut le verbaliser à chaque fois.
Il faut le verbaliser. Donc, tout ça, c'est langage. Et puis, le plus petit, tout à l'heure, Marie disait, celui qui a 3 ans par rapport à celui qui en a 12, les parents, etc. Le plus petit, peut-être qu'il va demander plusieurs fois quelle est la règle. Il ne comprend pas pourquoi, effectivement, ce n'est pas lui qui joue maintenant. Pourquoi celui qui commence, c'est à la gauche du donneur, etc. Toutes ces règles qu'il faut qu'on lui dise, qu'on lui répète, qu'il intègre, tout ça, c'est langage.
Je pose ma question autrement. C'est en fait, si on les met devant la télé plutôt que de jouer ensemble, parce que le jeu, c'est quand même exigeant, justement, il faut quand même être présent. En général, les jeux en famille où tout le monde sourit, ça se passe bien pendant 3 heures et les enfants vous disent merci toutes les 2 phrases, ça n'existe pas trop aussi. De quoi on les prive, quelque part, si on ne joue pas avec eux?
Ah, je pense que ce qu'il y a de génial, comme on le disait tout à l'heure, c'est que le temps du jeu, c'est un temps finalement où nous sommes tous enfants. Et ça, ce serait le jeu idéal. Quand vous dites 3 heures, ça me semble long et exigeant, mais ne serait-ce que 20 minutes, demi-heure à jouer ensemble et à être enfants ensemble, ça, je trouve ça plutôt génial. Et en plus, quand on est à jouer, par exemple, au jeu de loi, comme le disait tout à l'heure Marie, on est égaux. Il n'y a plus parents, enfants, 3 ans, 12 ans. On a tous la même importance. On joue au jeu de loi et on respecte ensemble les mêmes règles. Et ce temps, finalement, où on est égaux et où, finalement, les différences sont gommées, je trouve ça plutôt génial, oui.
Avant qu'on passe au couple, Marie-Aude Binet, même question par la négative. De quoi on se prive si on ne prend pas le temps de jouer?
Alors en fait, il y a une étude qui vient juste de paraître justement sur la difficulté de regarder la télévision pendant les repas familiaux. Donc ça se rapproche un petit peu là de votre question, Emmanuel. C'est que c'est prouvé dans cette étude que lorsque les enfants sont face à un écran, oui, ils entendent du langage, ils entendent du vocabulaire, mais ils n'ont aucune interaction. Et en fait, l'enfant a besoin de re-questionner. J'ai pas bien compris ce que tu as dit. Et pourquoi et comment? Et donc face à un écran, ce n'est pas possible. Alors que dans l'interaction, que ce soit autour d'un repas ou que ce soit autour d'un jeu, l'enfant est en capacité de poser une question et il aura une réponse. Et il va demander, par exemple, « j'ai pas bien compris ce que tu as dit, ce mot, qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc c'est l'importance du jeu, c'est-à-dire que dans l'interaction, l'enfant va avoir une explication, il peut re-questionner, élaborer autour de ce que vient de dire l'autre, que ce soit l'adulte ou un grand frère ou une grande sœur, et du coup, il va progresser dans son langage et dans l'appropriation du langage, justement. Et c'est pour ça que les règles sont importantes. Quand vous lisez une règle du jeu, c'est exigeant de lire une règle du jeu. Déjà, ça peut être un enfant qui a 7 ans, on lui dit « vas-y, lis-la ». Ça lui fait travailler sa lecture et sa compréhension de la lecture. Mais pour les autres, c'est « j'ai pas bien compris, est-ce que tu peux me réexpliquer ?» Donc, ça demande un effort de langage.
Marie-Aude Binet, jouer en couple. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de couples qui avaient redécouvert, ou de familles, hein. Je crois que c'est ce que vous aviez dit, le jeu, aussi parce que par moment, on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre, hein. Et puis qu'on avait peut-être un peu marre des écrans. Bref, on a peut-être ressorti des cartons les jeux, y compris en couple. À
oui,
vous entendre.
Tout à fait. Alors d'abord, il existe beaucoup de jeux pour les couples. On n'imagine pas, parce qu'on parle toujours des jeux collectifs à plus de 4 autour d'un plateau. En fait, il existe beaucoup de jeux pour les couples qui ne sont pas forcément que des jeux sur la sexualité, même s'il y en a. Il y a des jeux qui sont pour mieux se découvrir, qui sont aussi pour travailler un peu plus la complicité, parce qu'en fait, c'est ça un jeu. À quoi ça sert? C'est à être complice. Finalement, les couples qui ont tendance quelquefois à un peu trop...
La complicité et la compréhension, c'est-à-dire il y a des jeux qui utilisent aussi des manières déviées d'apprendre
à mieux communiquer, à mieux se connaître. Et puis aussi... à avoir, à peut-être aller chercher chez l'un ou chez l'autre des parties de soi qu'on ne montre pas par ailleurs. Donc, je parlais tout à l'heure de légèreté. Ben voilà, tout d'un coup, on va se mettre à rire, à exploser de rire pour quelque chose de très simple qui peut paraître complètement idiot ou alors être dans cette autodérision. C'est voilà, cet humour qui peut être un peu décalé. Et c'est vrai qu'il y a des couples, alors même à travers un simple jeu de cartes, qui ont redécouvert cette simplicité-là d'être ensemble. Et pareil, il n'y a pas besoin d'avoir 3 heures devant soi, hein. Ça peut être juste une demi-heure, ça peut être largement suffisant. C'est une manière quand même de détendre l'atmosphère et de favoriser une envie de se rapprocher. Peut-être après de pouvoir se parler ou même d'avoir du coup une intimité plus dans le corps à corps. Et puis c'est une façon aussi de partager, de se rendre disponible à l'autre. Voilà.
Oui, je suis là pour toi un peu gratuitement.
Exactement.
Il y a de la gratuité dans le jeu en fait.
Exactement. Et puis du coup c'est de la joie, c'est du sourire. Il peut y avoir une gratitude. Ah, oh, on a passé un bon moment, je te remercie. Et puis l'envie de recommencer, en fait, finalement. Alors, pour certains, le jeu, ça peut passer soit par des jeux plutôt compétitifs. Et aujourd'hui, on est dans les nouvelles générations, un plaisir de se retrouver autour d'un jeu vidéo à deux. Donc ça, c'est vraiment de plus en plus répandu sur les moins de 35 ans. Et alors sans y passer non plus 4 heures forcément, en tout cas d'avoir un jeu soit en ligne, soit un jeu vidéo, soit quelquefois certains jeux sur tablette qui sont faits ensemble. Je pense à Clash of Clans par exemple, il y a des couples qui jouent ensemble à ce jeu. Mais en tout cas, voilà, ce sont des lieux, des moments où on peut avoir une complicité. Et puis après, ça encourage à l'humilité. Et puis, à être dans le partage. Les couples se sont beaucoup plaints de ne pas avoir de temps pour partager ensemble. Parler, ça peut être source quelquefois d'anxiété pour certains ou être rébarbatif. Mais on peut passer par un moment de jeu. Ou alors on se parle et puis après on sait qu'on va jouer ensemble. Donc ça amène de la détente.
Oui, on joue et puis du coup après c'est plus simple de se parler.
Exactement, donc ça c'est après à chacun de voir. Hein, mais voilà.
Bernard Coulot, est-ce que vous le conseillez le jeu dans votre cabinet au couple ?
Oui, alors, en tout cas, je ne sais pas si ça m'arrive assez peu de conseiller le jeu comme ça directement, mais il est clair que pour moi, un couple ou une famille qui joue est un indicateur d'une certaine santé conjugale ou d'une certaine santé familiale, c'est-à-dire de cette capacité à se débrancher, déconnecter des soucis que l'on peut avoir et que l'on a tous. Effectivement, dans nos vies aujourd'hui, il y a une certaine lourdeur liée au fait de travailler parfois, la parentalité, les soucis qu'il peut y avoir, la Covid-19...
Arrêter de parler d'actualité aussi, parfois en couple, ça permet de parler d'autres choses. Hein,
c'est ça. Et effectivement, le jeu, c'est tout d'un coup passer à autre chose, c'est rompre. C'est coupé avec tout cela qui nous prend la tête souvent et, comme on le disait en début d'émission, se retrouver enfant, en famille ou en couple.
Mais quel type de jeu, par exemple, vous conseilleriez pour les couples ? Est-ce que vous avez des conseils
Alors,
particuliers
Alors moi, je suis
pour le...
moins branché et moins jeune que Marie, donc je n'ai pas en tête vraiment des jeux, mais tout ce qui peut les amener réellement à être dans un plaisir partagé, une connivence. Effectivement...
Mais en thérapie familiale, parce que vous faites des thérapies familiales, il n'y a pas parfois justement des jeux de rôle aussi ?
Alors si.
Ça n'arrive
si,
pas parfois,
si.
Ça hein ?
Mais là, ce sont des jeux à visée thérapeutique, donc on n'est plus tout à fait, même s'il y a l'idée de la légèreté qu'évoquait Marie.
De la mise en scène aussi.
Oui, de la mise en scène, etc.
Se mettre à la place de...
Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle parfois des pyramides familiales ou je ne sais trop. Réellement, tout ça, c'est essayer d'apporter de la légèreté. Ça, c'est clair que c'est l'intérêt principal des jeux.
Mario de Binet, vous vouliez inciter aussi les couples parfois à avoir des jeux plus, comment dire, y compris pour, peut-être pour, comment dire ça, pour égayer l'intimité conjugale.
Oui, c'est-à-dire que le jeu est aussi une façon de nourrir la créativité dans la sexualité. Alors, des jeux qui peuvent être très simples, on peut jouer avec des dés. Voilà, si je fais un 2, tu enlèves le haut. Si je fais un 4, tu viens m'embrasser le dos. voyez, et ça peut être une façon de quand je parle de créativité, on est sur des choses qui peuvent être très simples, qui peuvent être un peu plus coquines, ça c'est après c'est la créativité de chaque couple, mais qui peut aider à retrouver du désir, qui peut aider à voir le plaisir autrement, et puis justement à renforcer cette complicité. Parce que là on est dans quelque chose qui est au cœur de la relation conjugale, qui n'appartient qu'au conjoint, et ça peut se renourrir. Voilà, quels que soient les âges, et je le vois moi en tout cas dans l'accompagnement, dans les thérapies en sexologie, il y a des couples qui redécouvrent le plaisir d'être ensemble par des simples petits jeux comme ça, qui peuvent être aussi des mises en scène, qui peuvent être aussi voilà, l'écriture de certains scénarios. Et qui vont, parce que quand on est enfant, on est dans l'imaginaire, on écrit des scénarios, on se raconte l'histoire des trois petits cochons comme ça, et puis voilà, et on joue, et à l'école on fait jouer des petites scénettes comme ça aux enfants. Mais adultes, il y en a beaucoup qui font du théâtre, qui font de l'impro, ben on peut aussi faire ça dans sa vie de couple et être dans une forme d'improvisation qui réveille la spontanéité enfant, dans le respect bien sûr de chacun, dans le consentement de chacun, mais ça peut quand même redonner beaucoup de fantaisie et d'envie, redonner de l'envie dans quelque chose qui s'est peut-être affadi.
Rien de tel de fait que la créativité en toute chose, hein, y compris dans la vie conjugale. On va faire une deuxième pause et puis on va finir cette émission avec quelques conseils ou bonnes recettes de bonheur plus généralement. Entre autres, c'est 10 conseils du pape pour être heureux en apéritif. Vivre et laisser vivre pour le pape. Se donner aux autres, jouer avec les enfants, passer du temps ensemble le dimanche, rechercher activement la paix et autres.
présence à Sévrac-le-Château 102.3.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vite coup, vite famille, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec un coup de zoom sur les jeux, pour ceux qui nous rejoindraient. C'était, on va dire, le thème à l'intérieur du thème. Autour du plateau, Marie Binet, conseillère conjugale et familiale, Bernard Coulot, psychologue, thérapeute familial, expert auprès de la Cour d'appel de Toulouse. Je vous ai donc proposé 10 conseils du pape pour être heureux. C'est des conseils qu'il a donnés à l'occasion d'une interview à une revue argentine qui s'appelle Viva. C'était en juillet 2014, ça date un peu. Il appelle ça aussi ses recettes du bonheur. Alors je vais les citer et puis après vous allez me dire celles que vous avez choisies et puis ce que vous en avez compris. Vivre et laisser vivre, ça demande peut-être quelques explications. Moi ça m'a pas mal plu. Se donner aux autres, se mouvoir avec bienveillance et humilité, jouer avec les enfants, passer ses dimanches en famille, aider les jeunes à trouver un emploi, prendre soin de la création, oublier rapidement le négatif, respecter ceux qui pensent différemment, rechercher activement la paix. Bernard Coulot, si vous deviez vous arrêter sur une ou deux, lesquelles vous ont plu ?
Mais disons que je vais les prendre un petit peu dans l'ordre. En tout cas, la deuxième, là, se donner aux autres, parce qu'il est dit, en tout cas dans les propos du pape, que quelqu'un d'isolé court le risque de devenir égoïste. Et l'eau stagnante est la première à se corrompre. Moi, ce que ça me dit, d'autant plus que nous sortons d'une période de confinement où l'autre, en quelque sorte, nous a été, dans la nécessité d'être à distance, nous a été en quelque sorte interdit. Et je me dis que là, dans cette période de déconfinement, oui, il est souhaitable et il est heureux d'essayer de retrouver le lien à l'autre. Et pour cela... bien évidemment, en respectant sûrement tout ce que l'on a appelé les gestes barrières, etc., il va quand même falloir que nous soyons dans une meilleure disposition à l'autre, être ouvert à l'autre, être ouvert à la rencontre. Et ça, vraiment, je crois que c'est effectivement, le pape a raison, une des clés du bonheur, la rencontre.
Alors on finit par devenir de l'eau stagnante malgré soi. L'autre, peut-être votre autre choix, une deuxième, ça serait quoi ?
Une deuxième, ça me plaît bien, tout à l'heure on parlait du dimanche, et moi qui suis un ancien, puisque j'ai plus de 60 ans, j'ai connu le temps où il y avait les habits du dimanche, c'est-à-dire que Marie l'évoquait tout à l'heure, on allait à la messe, il y avait le repas du dimanche à midi, et pour ma part, il y avait les habits du dimanche. Et aujourd'hui, ça paraît vraiment un temps préhistorique, mais les habits du dimanche, c'était marqué par des habits autres que les habits de la semaine, que nous étions dimanche, et que ça nous ouvrait à un autre type de jour que les jours de la semaine. Et effectivement, consacrer du temps en famille le dimanche, appuyer sur pause et tenter d'oublier un petit peu toutes les autres préoccupations, oui, je crois que c'est une des clés du bonheur pour chacun de nous, du bonheur conjugal et du bonheur familial.
Marie-Aude Binet, vos choix, juste deux.
Eh bien, moi, j'étais sur vivre et laisser vivre et oublier rapidement le négatif, qui pour moi sont assez complémentaires. Vivre et laisser vivre, bien, en fait, c'est justement arriver à être dans je suis là, juste là, et je profite de maintenant. Voilà, d'arrêter d'être dans le stress de demain ou dans 3 mois, et puis d'oublier rapidement le négatif, parce qu'en fait, lorsqu'on est enfermé dans le négatif, bien, justement, on ne peut pas vivre cet instant du présent. On est dans les rancœurs ou on est avec le boulet du passé parce qu'on garde quelque chose qui nous encombre. Et se vivre et laisser vivre, c'est aussi apprendre davantage l'émerveillement. Et ça, je sais que le pape François y est très attaché. Voilà, je remercie la gratitude pour laisser place plus à la joie que justement à tous ces ressentiments que l'on peut garder en soi ou toutes les peurs aussi que l'on peut avoir. Donc vivre et laisser vivre, c'est, je dirais, laisser être. Donc laisser être pour soi et laisser être les autres.
Je cite juste le pape François pour vivre et laisser vivre. Il rajoutait la chose suivante. Les Romains ont un dicton que nous pouvons prendre comme un fil directeur et qui dit « Allez et laissez les gens aller de l'avant. Vivre et laisser vivre, c'est le premier pas vers la paix et le bonheur. » Alors maintenant, votre recette à vous, si vous en aviez une, Marie-Aude Binet, pour l'été, une petite recette à cultiver.
Eh bien, d'être dans sa propre responsabilité pour que ça aille bien. Voilà. J'ai envie que ma relation de couple aille bien. J'ai envie que ma vie de famille aille bien. ben, qu'est-ce que je vais faire moi aujourd'hui pour ça? Voilà. Arrêter d'attendre des autres et surtout de se dire, ben voilà, moi, je vais être acteur, actrice de ce que je souhaite. Et ben, ça commence par avoir le sourire. Voilà. Quel sourire aujourd'hui j'ai sur mon visage, puisqu'on sait que le sourire est communicant, communicatif. Eh bien voilà, je vais sourire et je vais être acteur de...
Donc c'est quoi? C'est décider d'être heureux?
Décider d'être heureux, décider que ça ira bien. Ça ne veut pas dire être la politique de l'autruche, voilà. Mais c'est-à-dire qu'est-ce que je suis prêt ou prête à faire, à dire, à être pour que ça aille bien dans, dans mes relations.
Bernard Coulot, pour finir, votre recette du bonheur, vous, ça serait quoi?
Oui, je crois que Marie a raison pour être...
Alors, vous ne faites pas la même chose que Marie, hein, sinon là...
Non, je ne vais pas faire pareil.
Sinon, je vous sors du jeu. Hein. Mais je ne vous ai pas expliqué les règles. Alors.
C'est l'idée que le bonheur, il ne faut pas attendre demain et après-demain. C'est-à-dire que le bonheur, c'est maintenant.
C'est-à-dire que vous n'aviez pas fait exprès, mais vous aviez choisi la même chose.
À peu près.
Bon, il va falloir qu'on se réexplique les règles, je plaisante. Ouais.
C'est-à-dire qu'il en faut pas beaucoup pour être heureux. Vraiment, je crois que...
C'est-à-dire, ça peut paraître facile de dire ça.
Il faut juste décider qu'il faut apprécier chaque moment et que chaque moment peut être un temps de bonheur à une condition que je...
C'est quoi, c'est la petite gorgée de bière de...
Alors pourquoi pas la gorgée de bière, mais en tout cas l'idée c'est de s'abandonner à l'instant. Et que le bonheur, mais il faut savoir s'en satisfaire peut-être de peu, mais ça peut être la gorgée de bière, mais ça peut être, comme on le disait tout à l'heure, jouer 20 minutes avec nos enfants, nos petits-enfants, ou en couple. Et je me dis, moi, que pour cet été, sachant que nous avons passé des temps confinés, les uns sur les autres, comme disait Marie tout à l'heure, je crois que pour être heureux, c'est un équilibre. Il faut se consacrer du temps à soi, dans une sorte peut-être d'égoïsme, mais qui est un égoïsme heureux, se consacrer du temps à soi, prendre soin de soi. Il est clair qu'il faut consacrer du temps au couple, prendre soin du couple, et que ce soit par le jeu, comme nous l'évoquions tout à l'heure, tenter d'être heureux à deux, en profitant de chaque instant à deux, et puis des temps familiaux. C'est-à-dire que le confinement nous a amené à ramasser tout ça, il faut peut-être retrouver des territoires pour soi, un territoire pour le couple et des territoires familiaux.
Allez, pour finir, je laisserai la parole au pape un tout petit peu longuement. Dans « Jouer avec les enfants », il dit la chose suivante. « Le consumérisme nous a mené à l'angoisse de perdre la saine culture du loisir, lire, profiter de l'art. » Voilà, on sait que le pape lit tous les jours. Je ne sais pas comment il fait. « Aujourd'hui, je confesse peu, mais à Buenos Aires, je confessais beaucoup. Et aux jeunes mères qui venaient, je demandais « Combien avez-vous d'enfants? Jouez-vous avec eux ?» C'est une question à laquelle on ne s'attend pas. Mais c'était une façon de dire que les enfants sont la clé d'une culture saine. Les enfants sont la clé d'une culture saine. C'est ça que je voulais donner à entendre aux auditeurs. Et il ajoute pour finir « C'est difficile pour les parents qui vont travailler tôt et reviennent quand leurs enfants sont endormis. C'est difficile, mais il faut le faire. » Merci beaucoup et rendez-vous donc pour la prochaine saison. Merci à vous d'avoir été fidèles à ce rendez-vous en dépit des confinements et déconfinements. À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.